Voilà, je suis poursuivi par Dieu, poursuivi, pour travailler ce sujet. J'en suis obsédé, j'en dors plus. Je sais que Dieu veut manifester la puissance du Saint-Esprit dans l'Église. Alors c'est vrai que la valeur de ces choses ne peut que passer par l'intelligence. Tout passe par l'intelligence, tout passe par le cerveau. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ça doit se concrétiser. Il est absolument indéniable que tout ce que nous entendons doit être filtré. Il se pourrait que, même imaginez que je dise quelque chose qui ne soit pas tout à fait juste. Il faut absolument que l'expérience pratique soit d'abord filtrée par l'intelligence. Et acceptée, bien sûr, dans notre cœur, avec un esprit joyeux, car croyez-moi, nous ne serons pas perdants si nous entrons dans la vie de l'esprit. Une des plus grandes œuvres de Satan, c'est de tout faire pour nous maintenir dans l'ignorance. Et je crois que j'ai été le premier servi. Pourtant, j'aime étudier la Bible pour mon plaisir personnel, j'aime l'étudier pour apporter la prédication, bon, ça c'est une chose. Mais ce n'est pas parce qu'on connaît la Bible qu'on est conscient de toutes les vérités spirituelles. Et je pense qu'une des ruses principales de Satan, c'est de maintenir les chrétiens dans l'ignorance. Pas que dans le péché, croyez-moi. S'il peut nous maintenir dans l'ignorance, croyez-moi, il aura atteint son objectif. S'il peut nous faire mettre de travers les choses. Vous rappelez quand Pharaon a commencé à céder à Moïse, il lui a dit, bon d'accord, vous allez sacrifier, mais vous sacrifiez dans le pays. Vous rappelez? Alors qu'il fallait... Alors, c'est l'image du diable qui dit, voilà, vous pouvez servir Dieu, vous pouvez vous consacrer, mais restez dans le monde. C'est ça que ça veut dire pour nous, les chrétiens. Parfois, les chrétiens me disent, je ne comprends rien à l'Ancien Testament. Mais croyez-moi, dans l'Ancien Testament, il y a des vérités spirituelles extraordinaires. Qui pourrait être utile à Dieu et aux hommes? Quelle église pourra être utile à Dieu? Quelle église pourra-t-elle être utile aux hommes? Parce qu'en fin de compte, nous devons être utiles aux hommes. Que quelqu'un ne vienne pas me raconter qu'il est utile à Dieu et que les hommes, ça ne l'intéresse pas. Alors là, vous êtes dans une erreur totale. Quand on est utile à Dieu, on ne peut pas ne pas être utile aux hommes. C'est inévitable. Faites attention, si vous faites partie de cette catégorie de gens, Dieu en premier, moi c'est Dieu, ce que les autres pensent, je m'en fiche, j'en ai rien à faire. Vous êtes dans de très mauvaises voies, vous êtes très loin de Dieu. Quelqu'un qui est près de Dieu est utile aux hommes, croyez-moi, dans la mesure où Dieu l'utilise, bien sûr. Que Dieu nous ouvre les yeux, ce cantique dernier rappelle cette évidence que Dieu nous ouvre les yeux. Jésus leur a ouvert les yeux après 3 années et demie de marche avec les apôtres le jour de la résurrection pour qu'ils comprennent les Écritures. Lire les Écritures et croire qu'elles sont toutes inspirées. Une fois qu'on est né de nouveau, normalement on croit que toute la Bible est inspirée. Donc on n'a pas ce dilemme, on n'a plus ce conflit. Est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est pas vrai? Dieu a créé le monde en 6 jours, est-ce que c'est 6 jours, c'est 6 jours, ah bon? 6 jours de 24 heures, 6 jours de 1000 ans, qu'est-ce qu'on en a à faire? Quelqu'un, je me dis, mais les stalactites, il faut des centaines de milliers d'années pour qu'une stalactite soit créée. Vous croyez que Dieu, quand il a créé le monde, ça devait le fatiguer de faire des stalactites et des stalagmites de 30 mètres de hauteur? Quand un chrétien est vraiment passé, quand un pécheur est passé par une véritable conversion, il sait que toute la parole de Dieu est inspirée. Que ce soit des jours de 24 heures ou des jours de 6000 ans, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce n'est pas un livre de science, c'est un livre pour que les hommes se préparent à rencontrer Dieu, la Bible. Alors, que Dieu nous ouvre l'esprit. On sait que tout ce qui est écrit est inspiré de Dieu, mais pour que ça passe dans une expérience pratique, il faut être sérieux. On ne peut pas. Vous avez vu tout le nombre de fois où Dieu nous demande de travailler notre salut avec crainte et tremblement. Quand je vois le bazar, j'utilise le bazar, parce que Jésus a presque utilisé les mêmes mots, lorsqu'il parle des marchands du temple, de ce qui s'est passé dans le temple, qu'il a fallu qu'il y ait du nettoyage avant que des aveugles et des boiteux ne soient guéris. Quand je vois aujourd'hui comment la chair, le monde est entré dans l'Église, mes frères et sœurs, si nous voulons la vie de l'Esprit, on va énormément revenir au respect des choses de Dieu. Je pense que personne ne peut pas être d'accord, tout le monde doit être d'accord. On ne peut pas, dans la maison de Dieu, même si ce n'est qu'un local, quand il est rempli de chrétiens, ça devient la maison de Dieu. Et on ne peut pas aborder ce sujet, ce n'est pas possible, sans un profond respect des choses de Dieu. Il est impossible que nous avancions dans l'abondance de la grâce si déjà nous venons au culte comme nous irions au marché. Ce n'est pas possible. Je crois qu'on doit réellement se préparer. J'ai parlé mardi de certaines choses, j'y refais allusion pour que vous compreniez mieux ce que je vais dire tout à l'heure. La traversée, le peuple d'Israël a dû traverser la mer Rouge. Le peuple d'Israël, après 40 ans perdus, a dû traverser le Jourdain. Vous vous rappelez, ces deux fleuves, en fin de compte, cette mer et ce fleuve représentent également, symbolisent la mort et la résurrection du chrétien. La traversée de la mer Rouge parle de la délivrance du monde. Ils ont été délivrés de l'Égypte, du pardon de nos péchés. C'est une histoire merveilleuse. Dieu était avec eux, il les a nourris pendant 40 ans, il y avait la colonne de fumée, la nuée, vous connaissez toute cette affaire. Est-ce que Dieu était avec le peuple de Dieu dans le désert? Oui, Dieu a été avec eux, le rocher spirituel qui les suivait, c'était qui? C'était Christ. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on est délivré du monde et ce n'est pas parce qu'on est délivré du péché qu'on entre dans les promesses de Dieu. La preuve, on l'a. Ils sont sortis d'Égypte, mais ils sont restés dans une vie de sécheresse, de stérilité, parce qu'ils n'ont pas compris cette affaire qui nous préoccupe à nous. La vie dans le désert, c'est le peuple de Dieu qui est délivré du monde. La vie en Canaan, c'est le peuple de Dieu qui est délivré de la chair et qui marche par l'esprit. D'ailleurs, vous avez observé, si vous avez lu le livre de Josué, que dès que Josué est entré dans le pays de Canaan, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était avec lui, et comment? Dans le désert, mais tout d'un coup, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Si vous réalisez ce qui se passe, son épée nue à la main, ça voulait dire que le combat spirituel allait commencer et que la victoire allait venir. Josué était un homme sérieux. Quand il était en Égypte, dans le désert et dans le pays de Canaan, il représente les hommes, les femmes qui veulent être remplis du Saint-Esprit et qui vont véritablement comprendre que dès qu'on traverse le Jourdain qui représente la mort à soi-même, Jésus l'a expliqué, on le sait le jour de son baptême, Jésus a commencé à expliquer ces choses. Ce sont des choses très sérieuses, mes frères et sœurs. On ne peut pas aborder ça à la légère. Nous avons profondément souffert. Il y a des chrétiens qui souffrent depuis des décennies parce que nous n'avons pas compris ces choses. Et honte à nous les pasteurs, je l'ai déjà dit, mais je le redis, de ne pas les avoir vécues. Parce qu'on ne peut enseigner que ce que l'on vit. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est évident. Moi j'ai honte. J'ai honte, mais le Seigneur m'a rassuré et il m'a fait comprendre que pour en arriver à la vie de l'Esprit, il faut avoir tout essayé. Et quand on a tout essayé, eh bien on commence à apprendre à marcher par l'Esprit. Parce que l'homme, il est très, très, très dur à comprendre les choses et on essaie par nos propres forces et on essaie parce qu'on a plein de talents et d'intelligence et de capacités, tout ce que vous voudrez, et on essaie jusqu'à ce qu'on se rende compte. Merci Seigneur pour sa patience. Je crois qu'il est écrit que la patience de Dieu est notre salut. Je pense qu'on l'a vérifié. Être dans l'ignorance nous maintient dans le désert. C'est pas plus compliqué que ça. On peut dire, Seigneur, on veut un réveil, on veut voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. On peut chanter pendant 36 heures de suite. Ça servirait à rien, sinon qu'à nous égosiller. Mes frères et sœurs, si nous ne comprenons pas ces choses, nous resterons dans le désert. C'est ça la chair. Et c'est quelque chose de terrible. L'ignorance est un vrai problème dans l'Église. Si les pasteurs ignorent ces choses, ils n'amèneront pas les églises là-dedans. C'est pas plus compliqué, je viens de l'expliquer. Mais il y a un autre problème, beaucoup plus grave maintenant, c'est que lorsqu'une fois qu'on sait ces choses, il y a beaucoup de chrétiens qui refusent cet enseignement. Parce que c'est mal expliqué, parce qu'ils n'ont pas compris, parce que le diable met son grain de sel, c'est évident. Mais beaucoup de chrétiens n'acceptent pas la vie de l'esprit. Ils veulent, eux, la vie de la chair. Ils veulent faire leur propre volonté. Et je pense que ça doit aussi venir des hommes de Dieu qui n'ont pas suffisamment expliqué ce qu'était la vie de l'esprit. Donc ça a favorisé, si vous voulez, ce refus de marcher dans la vie de l'esprit. Parce qu'on va terminer, bien sûr, avec une proposition de Dieu. Quel sera votre choix? Pourquoi? Parce que les chrétiens qui ne veulent pas rentrer dans la vie de l'esprit, c'est qu'ils ne voient que le côté négatif de la croix. Parce qu'il y a Il faut le présenter comme un côté négatif, cette mort à soi-même, mais je peux vous dire que le côté positif est englouti la mort. Croyez-moi que cela représente. Donc, le désert représente les efforts de l'homme. Les efforts de l'homme, vains, stériles, ça ne sert à rien. On fait des choses, mais il n'y a, pour ainsi dire, pas de résultat. La vie dans le désert, ça représente les efforts propres. On fait des choses pour Dieu, attention, je ne parle pas des choses du monde. On fait plein de choses, mais ça vient de notre propre nature. Ça vient de notre âme. Ça ne vient pas de Dieu. Et ça crée énormément de frustration. C'est pour ça qu'énormément de chrétiens rétrogradent, qu'énormément de chrétiens abandonnent. Moi, je faisais ça, j'en ai assez, j'arrête, ça ne m'intéresse plus. Bien sûr, quand on fait les choses avec ses propres forces, ça finit toujours par nous épuiser. Canaan représente la vie de l'esprit, la pensée de Dieu qui est communiquée. Vous avez vu, à part à deux reprises où Josué a commis une erreur, il allait à Gilgal et il recevait ce qu'il devait faire pour conquérir le pays de Canaan. La vie de l'esprit, c'est entrer dans les projets de Dieu, arrêter avec ses projets propres, pour enfin entrer dans les œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Si quelque chose doit être fait, tout doit être fait par Dieu, avec Dieu et pour lui. Si je suis utile, ça sera parce que Dieu en moi fera les choses. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs ? Voilà, si quelque chose se fait, je le répète, tout sera fait par lui, tout doit venir de lui. Donc ça signifie, bien sûr, une vie de foi et de dépendance totale. C'est pour ça que Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain, ce qui sera un culte. Un culte comment ? Un culte comment ? Raisonnable, acceptable, eh oui. Le culte, je l'ai déjà dit, ce n'est pas les deux heures que nous passons le dimanche matin à l'église. Ça, c'est une réunion d'adoration. Le culte, c'est une vie qui est entièrement consacrée au Seigneur. Alors, ce verset de Jean, on le relit ? Parce que c'est ce qui nous préoccupe ce matin. Ce verset de Jean, chapitre 12, Jésus, c'est vrai, parle de lui-même, mais il parle aussi pour nous. Verset 24, « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Donc, ce verset 24 nous parle de la vie qui jaillit de la mort. Vous me suivez ? C'est exactement ça. Hein ? C'est ce que Paul explique quand il dit « j'ai été crucifié, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Alors, je vous pose la première question. Qui veut expérimenter cela ? Pouvoir dire un jour, mais vraiment, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Moi, je réponds à ma question. Moi, je veux l'expérimenter. Est-ce que vous croyez que c'est possible ? Est-ce que vous croyez que c'était réservé à une élite ? Il fallait que l'apôtre Paul ait cette faveur divine parce qu'il allait écrire les deux tiers du Nouveau Testament, donc il lui fallait quelque chose de particulier. Ou est-ce que vous croyez que c'est quelque chose que tous les chrétiens peuvent vivre ? Moi, je crois que tous les chrétiens peuvent vivre. Et je vous pose la question, c'est sérieux. En principe, quand je pose des questions, elles sont sérieuses. Elles sont utiles pour nous interpeller, ce n'est pas des questions pièges. Des questions pièges n'auraient pas la faveur de Dieu, c'est d'une stupidité pas possible, on n'est pas là pour coincer les gens. Les questions doivent toujours nous amener à réfléchir. Qui veut expérimenter cette vie de mort et cette vie de résurrection ? Jésus, comme on le connaît, il va utiliser une image de la vie, une loi de la nature, pour que nous comprenions comment cela doit s'épanouir. Établir dans le domaine spirituel. C'est le grain de blé qui meurt, on comprend. C'est une loi naturelle. Et cette loi, si nous la comprenons bien, elle peut se réaliser dans le domaine spirituel. C'est pour ça que je suis en train de vous expliquer qu'il faut d'abord le comprendre avant de l'expérimenter. On a lu le verset 25, vous avez vu, celui qui donne une argumentation, celui qui aime sa vie la perdra, celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Donc, mercredi soir, en principe le mercredi, je vous le dis pour que vous compreniez que j'ai envie de faire des progrès aussi. Le mercredi c'est mon jour de congé, mais congé ou pas, mon esprit est bien sûr accaparé par les choses du Seigneur. Et il m'arrive des fois le mercredi soir de me détendre, de me mettre devant la télé et de regarder une émission qui peut être intéressante. Et j'allais m'asseoir dans mon salon et tout d'un coup j'ai senti qu'il fallait que je médite ce verset. Ce verset est venu dans mon cœur, si le grain tombé en terre ne meurt. Et j'étais dans mon bureau, j'ai passé 2 ou 3 heures à réfléchir. Je ne savais pas que ça serait la prédication de ce matin, mais je vous assure que je ne regrette pas de m'être privé d'une émission super bien pour passer un moment encore mieux devant le Seigneur. Tout ça pour vous dire qu'à des moments, il faut savoir renoncer à des choses qui sont peut-être légitimes, parce qu'on a le droit de se détendre, oui ou non. Mais c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Alors, qu'est-ce que vraiment le Saint-Esprit m'a montré ? C'est que dans ce texte de Jean, il ne s'agit pas de nous séparer de ce qui est mauvais. Un grain de blé, est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Est-ce qu'un grain de blé nous parle de péché? Est-ce qu'un grain de blé nous parle de la chair? Bien sûr que non. Alors nous avons vu, depuis plusieurs semaines, qu'il y a des choses que Dieu nous demande de nous séparer. On a parlé de la délivrance du péché. Lorsqu'un homme se repent, il est délivré du péché. Vous êtes d'accord? On était un pécheur, on le reste à naissance, mais on est délivré du péché. Après, on a vu qu'il fallait être amené à la mort à soi-même, qu'il fallait être délivré du monde. Ça, c'est un grand problème aujourd'hui. Je parlais hier aux jeunes de tous ces jeunes qui sont esclaves du monde par le biais des nouvelles technologies. La délivrance du monde, la délivrance de la chair. Mais ce texte ne nous parle pas de ces 4 points. Ce texte nous parle de nous séparer de notre vie propre. Et c'est ce que Jésus dit dans l'évangile de Luc. Cette vie personnelle qui prend toute la place, l'aspect humain de notre vie qui essaie de faire l'œuvre de Dieu avec sa propre intelligence. Et cette vie humaine que nous utilisons pour faire l'œuvre de Dieu, Dieu aussi nous demande de nous en débarrasser. Un grain de blé, c'est très sain. Et c'est très bon. La vie que nous avons dans notre nature humaine doit passer par la mort, afin que la vie de Dieu puisse se manifester. Vous avez vu ce que Jésus ajoute ? Celui qui aime sa vie, donc sa vie naturelle, sa vie psychique, celui qui aime sa vie, la perdra. Celui qui est sa vie, dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Alors je l'ai traduit comme ça. Celui qui aime sa vie naturelle, celui qui n'est préoccupé que par son âme, que par les choses de la terre, que par les choses humaines, si belle serait-elle, il perdra tous les fruits pour l'éternité. Il n'y aura rien. Celui qui est sa vie naturelle, ça ne veut pas dire qu'il ne s'aime pas. Est-ce qu'il faut s'aimer? Que personne ne peut s'aimer. Ah, il faut se détester. Vous savez très bien que Dieu veut que nous nous aimions. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le béaba. J'espère que je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Mais celui qui est sa vie naturelle, c'est-à-dire qu'il met sa vie naturelle de côté, il la conservera et il bénéficiera de la vie de Dieu. Est-ce que c'est cette vie que nous voulons? Et voilà, c'est un grand défi, un vrai problème à comprendre. Là, on n'est pas dans la victoire sur le péché. Et c'est ça que j'ai compris. Parce que moi, si vous voulez, presque toute ma vie, je me suis préoccupé de ça, de ne pas pécher, de me tenir à carreau, de faire très attention à ci, de faire très attention à là. Et ce que je prêchais quand même, je m'appliquais à le vivre. Bien entendu. Mais là, c'est une autre dimension. C'est quelque chose de supérieur. On n'est pas dans la victoire sur le péché. On est dans le domaine de la vie naturelle. Parce que ce que j'ai compris, c'est que la vie naturelle n'a pas de puissance sur les choses spirituelles. C'est pour ça que Dieu nous demande de nous en débarrasser. Vous comprenez? Pourquoi on ne voit rien, fait presque rien? On voit la grâce de Dieu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais mes frères et sœurs, dans beaucoup d'églises, on ne voit rien. Même si les gens parlent en langue, il y a des églises qui se vident. Il faut être honnête, on le sait, hélas, on ne fait que le vérifier. Mais dans beaucoup d'églises, les chrétiens se fatiguent, beaucoup, et ils s'épuisent, et ils portent pour ainsi dire très 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 peu de fruits. Ils connaissent la victoire sur le péché, ça quand même, je pense qu'on l'a vérifié, mais ils continuent à être animés de cette vie naturelle. Est-ce que vous me suivez? Je ne vais pas trop vite? Mes frères, vous comprenez, c'est une chose de s'être repenti, de s'être converti, d'avoir la victoire sur le péché, mais malgré cela, on peut continuer à utiliser ses propres forces pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de puissance dans le domaine spirituel. Mais vous comprenez bien que dans la guerre spirituelle, dans la puissance des ténèbres, la victoire, il faut qu'elle soit assumée par des armes spirituelles. Comment pourrions-nous imaginer que nous aurons la victoire sur la puissance des ténèbres, dans le domaine spirituel, avec des forces humaines? si belle serait-elle ? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Les choses spirituelles ne peuvent être gagnées que par un comportement vraiment spirituel. C'est pour ça que le Seigneur dit, mais il faut que ça meure. Jésus, il fallait qu'il meure. Il n'était pas saint, le Seigneur, il a toujours été saint. Est-ce qu'il fallait qu'il meure, oui ou non ? Et quand Pierre lui a dit, mais non, à Dieu ne plaise, cela t'arrivera pas. Tant tout le monde te suit, les foules te suivent. Attends, mais tu peux être le roi, tu peux régner sur la terre. Mais c'est clair, c'est ça qu'il voulait dire. Quand il ne voulait pas que Jésus meure, mais il voulait, mais t'as pas bossé. On est là, on sera tes ministres. Voilà, Judas, ministre des Finances. Il y a tout le monde. Et je le pense, qu'il a dû le penser. Et que s'il en est arrivé là, c'est parce qu'il avait très bien compris que Jésus n'allait pas régner et qu'il a joué cette entourloupette. Mes frères et sœurs, je le pense vraiment. Que certains étaient sûrs qu'ils allaient être les ministres du gouvernement que Jésus allait établir. Mais Jésus devait passer par la mort. Il était saint, il était pur, sans tache. Il aurait pu, d'un claquement de doigts, établir un règne. Ça aurait été extraordinaire. Mais je peux vous dire que le problème du péché n'aurait pas été réglé. Et la chose la plus importante dans le cœur de Dieu, ce n'était pas qu'il commence à régner sur la terre. Vous inquiétez pas, il va régner. Ce qui était le plus important, c'est qu'il s'occupe du pardon de notre péché. Vous ne croyez pas que c'était prioritaire ? Voilà. Et ça, quand on ne comprend pas la croix, on ne comprend pas la nôtre. Et ce sont des choses importantes. On est dans le spirituel. Beaucoup de gens sont dans la religion. Vous savez, on compare les religions. Mais c'est d'un ridicule. Plus j'avance là-dedans, plus je me dis, mais qu'on est bête d'aller dans des comparaisons de religions, de dénominations, de doctrines. Ça peut se faire. Mais ce qui amènera la puissance du Saint-Esprit, ce sont des gens qui vivent par l'Esprit. Ce sont des gens qui ont compris que pour vaincre la puissance des ténèbres, il faut une puissance supérieure. Vous êtes d'accord ? Et si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on fera une œuvre humaine, religieuse, on gagnera quelques âmes parce que Dieu nous fera grâce. Mais ce n'est pas quand même le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que son œuvre multiplie, que son œuvre grandisse. La victoire sur le péché, c'est une chose. J'espère que vous faites partie de ce quand même qui en êtes là. Vous avez pris la victoire sur le péché, vous avez compris ce qu'était quand même la mort à soi-même. Et là, on est parce qu'on peut pas, il faut avancer par étapes. Ce sont des choses qui se font par étapes, on ne peut pas faire les choses n'importe comment. Si vous n'êtes pas converti, si vous n'êtes pas né de nouveau, ne demandez pas à marcher par l'esprit. Si vous êtes, vous pouvez être, on parlait ce matin d'une jeune fille, ou que vous soyez catholique, évangélique, ça ne veut rien dire. Si vous n'êtes pas passé par la nouvelle naissance, vous ne pouvez pas marcher par l'esprit. Ne dites pas, mais moi je suis, mes parents, mon père est pasteur, mais je suis dans une famille, ils sont pieux, je connais toute la vie par cœur. Si vous n'êtes pas passé par la nouvelle naissance, vous ne pouvez pas marcher par l'esprit. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça, c'est sérieux. Tout à l'heure, on va prendre la Sainte Cène. Si vous n'êtes pas converti, eh bien, convertissez-vous. Repentez-vous, pas demain. Ne demandez même pas, je vais un peu exagérer, ne demandez pas l'aide de Dieu ou l'aide des gens. Priez pour que je me convertisse. Moi, quand quelqu'un me dit, priez pour, je dis, non, je ne prie pas. Convertissez-vous. C'est un piège, ça. Je me souviens, cet été, j'étais dans un camp, monsieur, il vient me voir, monsieur Gros, je suis touché par vos prédications. Bon, ça, qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, je voudrais que vous priez pour que je me convertisse. Non, je ne prie pas. Je ne prie pas. Ah, vous n'êtes pas content ? Non, non, je ne prie pas. Convertissez-vous. Quand ? Maintenant ! Et il s'est assis, il s'est mis à prier. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie maintenant. Je te demande pardon pour mes péchés. Voilà. Il relève la tête, et bien, j'ai dit, c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Et voilà. C'est tout, c'est tout. Et je crois qu'il l'a fait sérieusement. Mais voyez dans quel monde, on est dans un monde de sentimentalité, bien sûr, je vais prier. Non, convertissez-vous. N'attendez pas demain, parce que si vous partez dans l'éternité sans vous être converti, vous allez souffrir éternellement en enfer. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Donc Jésus est en train de parler de cette vie spirituelle qui jaillit. Apprendre à haïr sa propre vie, c'est apprendre à renoncer à sa propre vie. Ça, je ne le fais pas avec mes forces. Je me tiens devant Dieu pour recevoir la grâce de Dieu. Quand Jésus ajoute « si quelqu'un me sert, qu'il me suive », il parle justement de cette loi spirituelle qui fait jaillir la vie de la mort. C'est ça qu'il explique. Offrir sa vie en sacrifice, ça veut dire « je renonce à mes propres forces ». Je ne veux plus faire l'œuvre de Dieu avec mon intelligence. Vous êtes d'accord ? Est-ce qu'un pasteur peut prêcher avec son intelligence ? Est-ce que ça peut être intéressant ? Bon, est-ce que vous préférez un pasteur qui parle avec son intelligence, avec sa capacité, ses talents ? Ou est-ce que vous préféreriez un pasteur qui prêche par la puissance du Saint-Esprit ? Ça sera la même prédication. Ça sera la même prédication. Mais Dieu la bénira. Est-ce que vous comprenez? Ça sera la même prédication. J'ai lu le témoignage d'un homme de Dieu qui disait, moi, quand j'étais rempli du, baptisé du Saint-Esprit, je disais exactement les mêmes prédications. Et les gens se convertissaient par centaines. Il disait exactement les mêmes choses. Mais la source n'était plus la même. Au début, la source était humaine. Et puis, c'était la source divine. Alors, quand c'est la source divine, comment ne voudriez-vous pas que les gens soient touchés? Oui, ils s'en vont. Oui, oui, on le voit. Ou alors, ils rejettent tout en bloc. Mais ça, c'est leur problème. Mais ceux qui ont soif de Dieu, ils rencontrent Dieu. Et on permet dans une ville à des gens de rencontrer véritablement le Seigneur. Alors que la religion, pentecôtiste fut-elle, ne servira pas à mener les gens à Dieu. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit. Donc, à partir du moment où nous connaissons la délivrance du péché, de la mort au péché, de la délivrance du monde, de la délivrance de la chair, je pense que plusieurs en années là, on va être conduit sur un chemin de vie spirituelle. Notre nature va s'éteindre pour laisser place à la vie de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur va nous aider. Est-ce que vous croyez que Dieu va nous aider? Vous savez, je prépare des prédications tous les jours. Ça fait 29 ans que je prêche. Et c'est la première fois que je ressens autant l'approbation de Dieu en préparant des réunions. Autant. Comment je suis, mais porté par Dieu. Parce que c'est comme si Dieu me disait, c'est ce que je veux que tu fasses. C'est ce que je veux pour l'Église. C'est ce que je veux, la vie de l'Esprit. Comment voudrez-vous que Dieu n'approuve pas cela? Il n'approuve pas le bonhomme, il approuve le sujet. Parce que c'est sa volonté. Et le Seigneur va nous aider, il va agir différemment. Avec Joël, il va agir d'une telle manière. Avec son épouse Kerry, il va agir d'une autre manière. Avec Natacha, avec Leslie, avec chacun d'entre vous, Dieu, il vous connaît. Vous avez une personnalité différente de quelqu'un, des problèmes différents, un parcours différent. Ne vous inquiétez pas, Dieu ne va pas agir avec tout le monde de la même manière. Et par pitié, n'imposez pas vos expériences aux autres. Moi, j'en suis là, j'ai expérimenté ça, je me lève à 4 heures tous les matins, fais pareil. Je vous en supplie, ne commencez pas, on retomberait de suite dans la chair. Ça serait la plus grosse erreur que vous pourriez faire d'imposer aux autres votre expérience. Quand on marche par l'esprit, on n'a pas besoin de mettre la pression aux autres, croyez-moi. Et ça, je vous en supplie, je vous le demande, je suis votre pasteur, vous avez choisi de venir dans cette église, écoutez, c'est votre problème maintenant. Et vous m'avez comme pasteur, eh bien il faut faire avec. Mais mes frères et sœurs, je vous en supplie, n'imposez pas vos expériences aux autres. N'imposez pas vos expériences aux autres. Pensez à ce grain de blé, avec son écorce dure qui va pénétrer, dans le sol. Ça fait peur. J'étais sur un épi, on était une centaine ensemble. On était au vent, à la lumière. Et tout d'un coup, on me demande d'entrer dans le sol. Qu'est-ce que vous préférez? Être balancé au soleil avec les copains? Ou est-ce que vous préférez vous isoler tout seul? Qu'est-ce que vous préférez? Quel choix allez-vous faire? Mais c'est ça. C'est ça, on est dedans. Est-ce qu'on veut continuer à profiter du monde, de la vie? Je tiens quand même à vous dire que quelqu'un qui marche dans l'esprit, il a une vie supérieure. Et qu'on ne peut pas comprendre, je pense, tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Et que ça, c'est la grosse ruse du diable. Si tu meurs, mais tu te rends compte, tu vas tout perdre. Tu vas mourir. Non, vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre. On va vivre, on va voir la gloire de Dieu, parce que le grain de blé, on a trouvé dans des pyramides en Égypte, du blé qui était stocké depuis des milliers d'années. Et il n'a pas bougé. Tant qu'il est à l'extérieur, il ne bouge pas. Dès qu'il est dans l'humidité et dans les ténèbres, on peut parler, entre guillemets, d'un moment de difficulté, d'un choc à subir, eh bien, mais ça ne bouge pas, mais dès qu'il connaît la profondeur, le germe jaillit. Vous avez déjà peut-être vu, même dans du coton, hein, on met une graine, hop, avec de l'eau, et puis on la voit dans un verre transparent. C'est exactement ce que Jésus est en train de nous enseigner. Et on en est là, mes frères et sœurs. On est là devant un choix, le Seigneur nous a amenés là. On en est là, c'est le résultat de sa souveraineté, le résultat de l'action du Saint-Esprit, c'est surtout le résultat de frères et sœurs qui ont soif dans l'Église et qui en ont marre, excusez-moi l'expression, de voir que les choses ne se manifestent pas. Eh bien, le Seigneur, il l'a vu, eh bien, il est en train de nous secouer, de nous aider, de nous protéger, de nous bénir pour que nous arrivions à ces choses-là. Est-ce que nous voulons porter du fruit? La question, elle est là. Est-ce que nous voulons porter un petit peu de fruit? Un petit grain de temps en temps? Moi, je vais vous dire. Cet enseignement, il va loin, parce qu'un grain de blé, il ne produit pas un grain. Quand vous semez un grain de blé, L'épi, il n'y a pas un grain. Ça serait, ça, à quoi ça servirait de servir, de semer? Un grain emporte 30, 60, voire 100. Cet enseignement nous prouve que la vie de l'esprit est la vie de la multiplication. Vous voulez voir les églises se multiplier? Non pas pour dire, voilà, on va être nombreux en période d'élection. On aura du poids. Écoutez, si c'est ça, je ne crois pas que le Seigneur... Parce qu'on l'entend, ça, je l'ai entendu. On est compte, si on était 10 000 chrétiens dans une ville, on aurait du poids pour les élections. Écoutez, je pense qu'on n'est pas dans ce royaume-là. Mes frères et sœurs, voilà, ça c'est charnel. Charnel, c'est ridicule, ça ne tient pas debout. Mes frères et sœurs, notre problème, ce n'est pas la multiplication pour qu'on ait du poids sur les autorités et les notables de la ville, c'est pour que des âmes soient sauvées. C'est pour que des âmes n'aillent pas à l'enfer. Quand nous travaillons sur le plan matériel, nous avons une certaine grâce. La preuve, si nous sommes 400 membres dans l'Église, nous avons gagné des âmes, une après l'autre, parce que Dieu est bon et parce que Dieu a vu des gens qui avaient besoin d'être sauvés. Mais mes frères et sœurs, si nous entrons dans la vie de l'Esprit, nous entrerons dans la vie de la multiplication. C'est comme ça. C'est une preuve. C'est pour ça que Jésus a pris l'image du grain de blé. Et nos paroles seront bénies. Quelqu'un qui vit par l'esprit, il n'a pas besoin de se forcer. Je dois témoigner. Je dois témoigner. C'est un témoignage. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas, il faut que j'apporte un message. Je deviens le message. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas quelqu'un qui transmet un message. Je suis moi-même le message. Ma vie elle-même. Et c'est ce que Jésus veut quand il a dit « Je suis la lumière, vous êtes la lumière ». Voilà, nous reproduisons vraiment. Madame Bourdelle a prié pour ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Madame Bourdelle, il faut vous appliquer à ça. Et nous, on est d'accord avec votre prière. Et il faut que nous entrions là-dedans. Quel bien précieux pour l'Église de voir des croyants abandonner leurs propres forces, leurs idées, leurs projets. On a des projets, j'en ai parlé l'autre jour. Imaginez, voilà, moi j'ai à cœur, on a de l'argent dans l'église, tiens, j'ai à cœur de fonder une école biblique. On va voter avec le conseil d'administration, on a l'argent, on va le faire. Est-ce que vous êtes sûr que Dieu va bénir ce projet? Moi je ne suis pas sûr. Hein. Si ça vient de notre petite idée à nous, ça va être charnel. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, pour dire, que c'est bien, ça peut que venir de Dieu, pensez donc. Ça peut venir de l'orgueil, de la chair, vous voyez? Mais quand on est conduit par l'esprit, on ne peut pas faire autrement que de faire l'œuvre de Dieu. Demain au travail, vous ne pourrez pas faire autrement que d'être un témoin. Vous n'irez pas témoigner, vous serez un témoin. Par votre vie, par votre comportement. Quand j'entends dire que des chrétiens sont grossiers, ça me brise le cœur. Ils n'ont pas la vie de l'esprit. Et pourtant, certains parlent en langue. Ils ne parlent pas en langue. Ils répètent des syllabes les unes après les autres. Ne me dites pas que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit peut être grossier. Sérieusement. Il faut être sérieux quand même. Voyez. Et nous, on amène les gens juste à parler en langue. Moi, je vous dis que la vie de l'esprit, c'est ce qu'on est en train de voir. Croyez-moi. Une église, quelle bénédiction quand elle entre dans ce domaine-là. Un chrétien qui est rentré dans la vie de l'esprit est un chrétien qui vit dans la grâce. Il n'a plus besoin de voir de projet. C'est la volonté de Dieu qui va se faire. Il est intéressé par la fidélité. Seigneur, aide-moi à être fidèle dans les petites choses. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà, Seigneur, ma vie, je vais l'amener comme tu veux. Si tu as prévu de grandes choses, ben ça c'est ton affaire. Mais Seigneur, moi je veux... On ne se prend plus la tête. Il n'y a plus besoin de faire des projets. On entre dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, il est imprégné de la vie de Dieu. Et quand il parle, c'est Dieu qui parle. Vous direz à quelqu'un que Dieu vous bénisse, la personne elle va peut-être se mettre à pleurer. Est-ce que ça peut arriver? Parce que c'est Dieu qui lui a parlé. Vous allez dire les mêmes choses, je vous dis, mais ça sera le fruit. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Donc nous sommes, mes frères et sœurs, on va bientôt prendre la Sainte-Cène. Nous sommes devant un choix, nous avançons, vous l'avez vu, si vous avez suivi toutes les réunions, nous avançons dans un choix. Dieu agit toujours en fonction de nos choix. Vous connaissez les textes, choisissez qui vous voulez servir, choisis la vie ou non la mort. Je ne vais pas prendre les textes, la repentance c'est un choix. Hein, l'incrédulité, l'athéisme, les blasphémateurs, ils choisissent. Ils sont pas pires que les autres. On n'est pas meilleur que les uns. Voilà. On est toujours devant un choix. On a été devant un choix pour accepter la croix. Ce matin, on est devant un choix pour accepter la vie de l'esprit. Nous sommes responsables de nos choix. C'est pas votre voisin. Je ne suis pas responsable de votre choix. Je suis responsable de vous enseigner la vie de l'esprit. Je suis responsable, moi, de marcher dans la vie de l'esprit. Mais je ne peux pas maintenant choisir à votre place. Et là, c'est pour ça que je voulais prendre la Sainte-Seine après la prédication. Qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce que vous allez répondre? Est-ce que vous allez dire, ah, c'est bien, on avance, le grain de blé, c'est pas mal cette affaire, tiens, oui, c'est pas ça que vous devez comprendre. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez répondre? Est-ce que vous allez dire, Seigneur, je peux pas faire autrement que de te faire confiance? Est-ce que je vais perdre chance? Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire, Monsieur Gault, j'ai une question à vous poser, si j'accepte de mourir à moi-même, est-ce que je vais pas perdre? Écoutez, vous allez tout gagner. De toute façon, un pasteur un jour a dit, ce que vous refusez de perdre, c'est ce qui vous perdra. Et ça, c'est bien, et c'est bien dit. C'est un choix, c'est un échange de vie. Je dépose ma vie. Une sœur, l'autre jour, me posait la question, mardi. Elle a été interpellée par la prédication. Elle me dit, mais est-ce que ça ressemblerait pas un petit peu à l'affaire de Jacob? Quand il a lutté avec Dieu toute la nuit, et qu'au matin, Dieu a été obligé de lui démettre la hanche, et il pouvait plus se battre. J'ai dit, mais c'est exactement ça. On y reviendra certainement. Il a lutté avec Dieu, mais c'est ce qu'on a fait. On a lutté avec Dieu tout le temps. Jusqu'à ce que Dieu, il nous arrête. Et qu'on puisse plus marcher, pour qu'on puisse être appelé Israël, vainqueur avec Dieu. C'est exactement l'histoire de Jacob que nous sommes en train de vivre. Que le Seigneur soit béni. C'est un échange de vie. Voyez, le Seigneur, il parle pour nous. Il parle pour lui, mais il parle pour nous. Et j'aimerais terminer avec un texte, s'il vous plaît, qui explique bien ce sujet. Mais vous allez voir comment vous allez mieux le comprendre qu'il y a 15 jours quand on l'a lu. Regardez bien, mes frères et sœurs. Pour vous expliquer que la révélation, elle est progressive, que ce verset que vous avez lu peut-être 50 fois, que je vous ai lu il y a 15 jours, vous ne l'avez pas bien compris. Mais là, vous ne pourrez pas faire autrement après la prédication, après la lecture, de le comprendre. C'est dans 2 Corinthiens, au chapitre 4. Regardez bien ce verset. Voilà, je me réjouis parce que je sais que vous allez comprendre maintenant ce que signifie cet échange de vie. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 7 à 12. Vous savez, c'est sérieux, mes frères et sœurs. On n'est pas dans la théologie, là. On est dans la lutte de Jacob avec Dieu, exactement. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Amen. Est-ce que vous le comprenez mieux ce texte? Est-ce que vous le comprenez mieux? Vous avez compris? La vie agit en nous. Lorsque nous mourons à nous-mêmes, c'est la vie de Christ qui jaillit au travers de nous. On le relit à la fin. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. La vie de Jésus manifestée. Quand c'est la grâce de Dieu, vous savez, on peut être dur avec quelqu'un. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est drôle comment tout d'un coup, il va être beaucoup plus tendre avec les autres. On peut être dur avec les gens, même au nom de la piété, au nom de la droiture, etc. Voilà, et tu devrais faire ci. Je crois que quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est drôle comme on gagne beaucoup en tendresse. On était résigné parce qu'il fallait bien exprimer une pseudo-patience. On n'est plus résigné. On devient naturellement patient. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Celui qui est rempli du Saint-Esprit n'a pas besoin d'utiliser du forcing. Vous n'aurez pas besoin, on n'aura pas besoin de méthodes d'évangélisation pour amener les gens à Dieu. Les gens y viendront parce qu'ils nous demanderont de venir avec nous là où la présence de Dieu se manifeste. Comme je le disais, vous ne chercherez plus à rendre témoignage. Vous serez vous-même le témoin vivant, la lettre lue. C'est le chemin, c'est la véritable joie. Avant de mourir, la veille de sa mort, Jésus a dit « Je vous donne ma joie ». Il aurait pu ne pas le dire. La veille de sa mort, Jésus était couronné d'une huile de joie au-dessus de ses collègues. Oui, je vais livrer ma vie. Est-ce qu'on peut se recueillir quelques instants, mes frères et sœurs? Vous savez, ce que j'ai compris, je termine quand même avec cette pensée, ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas l'activisme qui produit la vie. Vous voyez le piège dans lequel on est tombé? Ce n'est pas l'activisme qui produit la vie, c'est la mort qui produit la vie. Vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous dire? Parce que c'est quand même des choses qu'on peut comprendre que quand on est converti. Voilà, monsieur de Dieu, Olivier, s'il vous plaît. Vous cherchez des frères? Prenons ce temps de qualité. Il nous reste 20-25 minutes avant de finir le culte. Que nous ne gâchions pas ces minutes de qualité. Nous sommes sous le regard de Dieu. Vous avez entendu, ces choses sont enregistrées. Il faudra peut-être les réécouter plusieurs fois. Moi, je passe des heures à méditer ces choses. Donc, j'en déduis que vous devrez aussi faire la même chose. Mais quelle grâce! Oui, la vie, elle est manifestée par la mort. Mais quelle grâce! Quelle grâce! Qui voudrait voir l'Église multipliée? Moi, je voudrais la voir. Parce que chaque âme de gagnée est une âme qui glorifiera Dieu dans le ciel. Nous allons prendre le pain et le vin. Jésus est mort. Vous savez comment il est mort? Comment il est mort? Comment il a souffert? Et vous avez vu comment il a multiplié? Le jour de la Pentecôte, ils étaient déjà 120 environ, et puis 3000, et puis 5000, et aujourd'hui des millions sur la terre. Des millions sont dans le ciel aujourd'hui engrangés parce qu'il est mort. Ça valait la peine qu'il meure? Moi, je crois que oui. Alors, aide-nous, Seigneur. On va prendre le pain qui nous rappelle et chaque fois son corps brisé. Le vin qui nous rappelle son corps blessé. Ses grumeaux à Gethsémané. Il a failli mourir à Gethsémané, de tristesse et de douleur. Mais Dieu l'a soutenu, un ange l'a fortifié. Il est allé à la croix. Et son sang nous donne la victoire. Et la prédication de la croix, ce n'est pas que pour le pardon des péchés, c'est pour cette mort à soi-même. C'est une greffe, elle ne peut pas être greffée elle-même. Il faut que quelqu'un la greffe. Si nous voulons porter du fruit, il faut que nous soyons greffés sur Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui le fera. Alléluia. Notre Père, notre Dieu, tu nous as laissé ta parole, nous n'avons pas toujours compris, réalisé la profondeur de tous ces textes dans les épîtres. Pardonne-nous, Seigneur, de nous être arrêtés juste au pardon des péchés ou à la délivrance du péché. Pardonne-nous, Seigneur, de nous être même contentés de la délivrance du monde ou de la délivrance de la chair. Non, nous croyons qu'il y a ce renoncement afin que ce ne soit pas par nos forces, par nos œuvres, mais par ta puissance. Jésus, enseigne-nous ces choses. Rappelle-nous-les. Que ce moment de Sainte-Cène soit un moment de victoire pour plusieurs. Seigneur, il n'y a que toi qui connais cet auditoire. Tu vois ceux qui t'appartiennent, qui veulent entrer dans cette vie de victoire. Tu vois les jeunes, les nouveaux, ceux qui ne sont pas encore passés par la croix. Seigneur, que pendant ce moment où ils vont rester assis, ils puissent se repentir. Donne-leur la grâce. Donne-leur cette repentance, Seigneur. Qu'ils puissent la saisir par la foi et comprendre ta bénédiction. Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Merci pour ce lieu également. Te prions de conduire cette Église dans la vie de l'Esprit, de me conduire dans la vie de l'Esprit et que j'arrête mon activisme inutile pour découvrir cette vie de l'Esprit, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci Seigneur Jésus. Levez-vous, frères et sœurs, vous qui êtes baptisés par immersion, et levez-vous avec joie, vraiment avec joie, oui. Soyez heureux d'être sauvés. Soyez heureux d'avancer dans cette vie de l'Esprit. Dieu n'est pas là ce matin pour nous sermonner. Dieu est là pour nous aider à avancer. Et que nous restions dans le silence, que nous louions le Seigneur dans notre cœur, que nous répondions au Seigneur dans notre cœur, que nous élevions la voix, que tout se fasse avec sérieux, avec ordre, avec bienséance. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni.